Bonjour à tous et à toutes, et bon sabbat. Quant à l'époque, M. Armstrong parlait à des gens qui avaient des positions élevées, il résumait la voix de Dieu et la voix du monde dans deux mots. Prendre et donner. Le monde est axé sur la voie de prendre, la voie de la vanité, d'être axé sur soi, le fait de convoiter la gourmandise, la jalousie et l'envie, la compétition qui mène à la lutte, la violence et la guerre. La voie de donner est la voie de l'amour, une coopération harmonieuse, le fait de servir, le fait d'aider, le fait de partager et le fait de donner. Dans son principe spirituel, la voie de l'amour, la voie de donner et la voie de la loi de Dieu, les 10 commandements, tandis que la voie de prendre est la voie de Satan. Et bien sûr, les problèmes que les êtres humains n'arrivent pas à résoudre sont provoqués par le fait que le monde vit d'après le principe de prendre. Dans Amos, nous voyons que la voie de prendre dominait la société à l'époque. À l'époque de Jéroboam, quelques décennies avant la chute d'Israël. C'était pourtant une époque de prospérité économique, mais il y avait la corruption morale et une idolâtrie endémique. Peut-être sur un plan humain, on aurait pu imaginer que si on avait plus, on pourrait donner plus. Mais ce n'était pas le cas, parce que ça dépend de la disposition d'esprit. Et la disposition d'esprit à l'époque n'était pas bonne. Amos chapitre 4, verset 1. Amos chapitre 4 et le verset 1. Écoutez cette parole génisse de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et bouvons. Elles voulaient prendre pour elles-mêmes, or qu'elles avaient déjà beaucoup. Bazan, c'est une région fertile à l'est de la mer de Galilée. Le mot Bazan veut dire fertile. Donc, et c'était connu, cette région était connue pour sa fertilité, était attribuée à la demi-tribu de Manassé. Une région donc riche, connue pour son bétail. Chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, toujours Amos, chapitre 5 et le verset 12. Car je le sais, c'est Dieu qui parle ici. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Des gens qui n'étaient pas concernés par le fait de donner, mais cherchaient à prendre pour eux-mêmes et à opprimer. À prendre le droit des pauvres, parce que la justice, c'est pour tout le monde, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Donc ça, c'est un exemple où les gens avaient la mentalité de prendre. Ce dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la voie de donner, et plus précisément, comment donner à Dieu. Comment donner à Dieu. Dieu veut que nous devenions comme lui. Il veut nous former, grâce à son esprit qui est au-dedans de nous. Il veut nous façonner comme de l'argile. Et il va de soi que tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Donc Dieu veut que nous devenions comme lui, y compris dans la façon par laquelle nous donnons. Certains donnent beaucoup, d'autres peu. J'ai voulu que nous regardions ensemble un exemple dans Marc chapitre 12, verset 42, parce que c'est un exemple qui nous apprend beaucoup. Dans Marc chapitre 12 et le verset 42. À premier abord, on pourrait dire que c'est une femme qui a donné très peu. Mais regardons ça dans Marc chapitre 12 et le verset 42. Déjà le verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces. Vous avez peut-être la même annotation dans votre Bible que la mienne, comme quoi en grec c'était deux leptons. Le lepton était la plus petite pièce de monnaie. Donc elle donnait deux pièces. Revenons à verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Verset 43. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et pour finir, quand on réfléchit bien, cette veuve a donné vraiment beaucoup. Elle n'a même pas donné une petite pièce, elle en a donné deux. Elle a donné vraiment beaucoup. Elle a donné de son nécessaire. Et les jours de fête, pour nous, c'est une occasion de donner à Dieu. Dieu nous donne, lors des fêtes, une opportunité de donner, de lui donner. Et c'est un privilège de pouvoir donner et de donner à Dieu. Une grande partie de notre préparation pour ces jours de fête est notre préparation spirituelle, y compris dans le domaine de donner à Dieu. Pourquoi donne-t-on des offrandes? Bien sûr, Dieu l'a dit, mais aussi nous pouvons réfléchir sur pourquoi Dieu l'a dit, et nous pouvons réfléchir au fait que nous donnons par générosité pour partager avec d'autres personnes la vérité que nous connaissons, que cet argent est utilisé pour prêcher l'Évangile. Il y a un dessein, il y a une raison pour laquelle Dieu a commandé, a dit qu'il faut donner des offrandes lors des fêtes. Et pour nous, c'est utile de regarder certains de ces bénéfices, ce qui en résulte quand nous donnons. Et c'est beaucoup plus que le fait de donner de l'argent. Ce que j'ai voulu voir avec vous, c'est un exemple où la voie de donner était pratiquée dans un domaine bien spécifique. C'est un exemple qui est éloquent, où les gens pratiquaient vraiment la voie de donner. Et dans cet exemple, il y a un certain nombre de principes qui se dégagent. Il y a des points qui ressortent, des choses que nous pouvons constater à propos de cette pratique spécifique de donner. Et des principes qui s'appliquent ailleurs, dans d'autres domaines où il est question de donner. Des principes bibliques, donc, qui ont des conséquences qui en résultat, le fait de donner dans ce domaine, ça s'applique, ces principes-là s'appliquent également à nos offrandes pour les jours de fête. L'exemple se trouve dans l'Épître aux Corinthiens. Deux Corinthiens, chapitre 8 et le chapitre 9. Ces deux chapitres ressemblent un petit peu à une lettre couvrière. Et les deux chapitres, c'est d'un seul tenant. C'est le même sujet. Pour situer le tout, il s'agit d'une famine à l'époque. Il y avait une famine en Judée. Et nous trouvons cette famine prophétisée et mentionnée dans Actes chapitre 11, à partir du verset 27. Actes chapitre 11, et le verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens, phrase qu'il faut retenir parce que nous allons retrouver cette phrase ailleurs dans la Bible. Chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée parce qu'ils souffraient, parce qu'ils connaissaient la famine. Verset 30, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barabbas et de Saul. Et il y a eu des morts à l'époque et la Judée était particulièrement affectée. Donc voilà où, pourquoi on envoyait ce secours aux frères qui habitaient la Judée. Et donc, c'est selon ses moyens qu'ils agissaient. C'était pas au point de se démunir, chacun allait donner ce qu'il pourra. Ça nous rappelle justement une phrase dans l'Ancien Testament. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 4, nous voyons ici 2 Corinthiens chapitre 8 verset 4, le même événement qui est mentionné. 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Il y avait des frères aux Judées qui avaient besoin. C'est une situation où ils manquaient, ils avaient besoin d'aide. Et les églises de la Macédoine sont mentionnées à partir du verset 1. La Bible, donc, nous donne un certain nombre de détails à propos de cette situation. Chapitre 8, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 8, et le verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et c'est intéressant de remarquer ce que la Bible dit, que c'était la grâce de Dieu. Ils avaient un désir, ils avaient une motivation, et Dieu, bien sûr, les motivait, Dieu les inspirait pour agir à travers le physique, pour faire du bien. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, les gens des églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, donc eux-mêmes, ils souffraient, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'était des gens qui étaient pauvres, qui avaient été éprouvés, mais qui cherchaient quand même à donner. Et quand nous passons à travers les épreuves, ça nous donne la possibilité d'avoir la compassion, de consolation. La Bible, du reste, en parle dans le même épître. On peut voir ça juste en vitesse. 2 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et, pour revenir à 2 Corinthiens chapitre 8, ici, donc, les frères connaissaient une pauvreté profonde, et ça les donnait la possibilité, visiblement, il y avait la consolation et l'empathie pour les gens en Judée qui souffraient. Verset 3. Ils avaient vraiment une attitude exceptionnelle, verset 3. Ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, eux qui étaient pauvres. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'était vraiment exceptionnel. Dieu ne demande pas de donner au-delà de nos moyens, mais ici, c'était vraiment exceptionnel, et ils avaient à cœur de le faire. Ils avaient à cœur de donner, ils voulaient, ils désiraient vraiment, une attitude exceptionnelle. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et donc, c'était en lien avec leur propre conversion. Verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans ces œuvres de bienfaisance. Et ils voulaient donc qu'ils fassent autant. Ils ont cité comme exemple, Paul a cité comme exemple les églises de la Macédoine, et ils voulaient aussi donc que les gens de Corinthe donnent également. Verset 10. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Ils avaient l'intention de donner, ils avaient la volonté de donner. Verset 11. Mais c'était pas encore achevé, le processus. Verset 11. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Il y avait la bonne volonté, mais il fallait que ce soit suivi par des actes. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Il fallait pas qu'il, c'est pas ce que Paul disait ici. Il fallait pas qu'il se prive de ce qu'il fallait pour vivre. Parce que Dieu veut qu'on donne de bon cœur, mais Dieu veut également qu'on donne avec sagesse. Verset 14. Afin que le superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ils avaient reçu beaucoup sur le plan spirituel de la Judée, et donc, en retour, ils avaient une occasion de donner physiquement. Et quand on parle de recevoir, c'est aussi une clé pour le fait de donner. Quand on aperçoit, quand on est vraiment conscient à quel point nous avons reçu, combien de choses nous avons reçues, combien Dieu nous a bénis. Et le verset 15 est une référence, bien sûr, à la manne. Je continue avec le chapitre 9 à partir du verset 1. Chapitre 9 à partir du verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Vous voyez donc le même sujet. Des frères dans l'Église qui savaient donner à d'autres frères dans l'Église. Mais nous allons voir que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas uniquement donner aux autres frères. Ça va plus loin, nous allons le voir. Chapitre 9, donc, verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Il parle des Macédoniens ici qui étaient prêts. Et ça aussi c'est un mot clé quand il s'agit de donner à Dieu. Ils avaient préparé et ils étaient prêts. Verset 3. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, il insiste, que vous aussi vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Verset 4. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Il s'agissait là de donner à d'autres frères, mais il fallait qu'ils soient prêts. Il fallait qu'ils aient, puisqu'ils avaient déjà en tête le fait de donner, il fallait qu'ils soient prêts, prêts pour donner quand les frères allaient passer. Verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Il fallait que cette libéralité soit prête en temps et en heure. Et donc, il fallait préparer. Préparer en vue de donner, en vue d'apporter, en vue de soulager ceux qui allaient souffrir. Il fallait que ce soit fait en temps et en heure, il fallait préparer, et il fallait le préparer avec soin. Chapitre 9, verset 11. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité, en donnant donc, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et ici, on commence à voir le fait de donner, en l'occurrence ici, à d'autres frères de l'Église qui étaient dans le besoin. Il y avait aussi quelque chose de spirituel qui avait eu lieu. Les conséquences de cet acte. Et un autre aspect. Feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et le remerciement, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies. Lorsque nous prions, de passer du temps à remercier Dieu tous les jours pour ce que nous avons. Et ici, ça engendrait des remerciements. Et c'est des remerciements à Dieu. Certainement qu'ils ont remercié les frères aussi, mais c'était des remerciements à Dieu. Ils étaient conscients d'où ça venait. Parce que, vous rappelez, on a commencé dans chapitre 8, verset 1. On parle dans chapitre 8, verset 1, de la grâce de Dieu. Continuons dans chapitre 9, verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement, donc ça c'est déjà un aspect, hein, chapitre 9, verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ils avaient besoin des choses physiques, mais il y avait aussi de nombreuses actions de grâce envers Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'actions de grâce. Dans les psaumes, nous trouvons plusieurs références où il est question d'actions de grâce. Et ici, nous voyons une première chose que nous pouvons constater, c'est que ça engendrait des remerciements. Cela engendrait des remerciements à Dieu. Et donc, nous allons voir par la suite des parallèles par rapport au fait de donner à Dieu. Comment donner à Dieu? Et pourquoi nous donnons à Dieu? Verset 13. De Corinthiens chapitre 9, verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, pas uniquement est-ce qu'ils remercient Dieu, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Et c'est intéressant de remarquer qu'au début du verset 13, c'est marqué « en considération de ce secours ». Donc, ils y pensent, c'est eux qui reçoivent, c'est eux qui ont reçu dans les circonstances dramatiques, et ils glorifient Dieu de votre obéissance. Cela faisait partie de leur culte. Et nous rappelons probablement la fameuse Écriture, la fameuse Écriture dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que l'obéissance est supérieure aux sacrifices physiques. Et ici, ils étaient conscients de ce qui se passait, que Dieu était derrière et ils louaient Dieu, et que c'était grâce à Dieu aussi qu'ils avaient cette aide de la part d'autres frères dans l'Église. Ça, c'est déjà donc un deuxième parallèle que nous pouvons faire quand nous donnons à Dieu. Chapitre 9, verset 6. De Corinthiens chapitre 9 et le verset 6. Je reviens ici en arrière pour voir un troisième parallèle que nous pouvons faire qui nous aide, qui nous montre ce qui se passe quand on donne à Dieu, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Rapportons-nous à Proverbe, chapitre 11, et le verset 24. Proverbe, chapitre 11, et le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. On peut imaginer que c'est le contraire de ce qui pourrait se passer normalement. Mais seulement c'est l'esprit qui donne. Et Dieu va s'assurer que la personne qui donne va aussi recevoir. Un esprit qui est sur le fait de donner plutôt que sur l'esprit sur soi. Et bien sûr, quelqu'un qui donne, il va donner également dans d'autres domaines. Il va donner dans le domaine du travail, par exemple. Revenons à 2 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quelqu'un qui veut aider les autres. Quelqu'un qui donne à Dieu. Quelqu'un qui est heureux de donner, parce que c'est un privilège de pouvoir faire du bien, de pouvoir donner. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et quand Dieu voit une attitude où quelqu'un veut vraiment donner, cherche à donner et donne, Dieu peut bénir ce genre de personne. Quelqu'un qui a des fruits, qui a des gestes, qui a une attitude face aux besoins des autres, Dieu peut, bien sûr, donner. Dieu peut bénir. Ça, c'est notre troisième point, notre troisième parallèle que nous pouvons faire avec le fait de donner à Dieu. C'est que le fait que Dieu peut bénir quand nous donnons. Verset 8. Je reviens. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, ce dont nous avons pour vivre, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Au-delà de ce dont nous avons besoin pour vivre, pour pouvoir justement faire du bien, pour pouvoir donner. Et là, nous voyons un cycle de donner, le cycle de donner, où nous donnons, et parce que nous donnons, et parce que notre attitude est bonne aux yeux de Dieu, Dieu, par exemple, va bénir, va donner pour que nous puissions continuer à donner encore plus, pour que nous puissions continuer à servir de cette façon. C'est un cycle. Chapitre 9, verset 9. Selon qu'il a écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il nous permettra de faire davantage et il augmentera les fruits de votre justice. Intéressant, parce que dans le verset 9, il est question de la justice de Dieu. Sa justice subsiste à jamais. Dieu est un Dieu qui donne. Ça fait partie de sa nature. Et ici, il est question de sa justice subsiste à jamais. Et dans le verset 10, à la fin du verset 10, il leur montre les fruits de votre justice. Et c'est effectivement un aspect de la justice, de donner. Et donc, en donnant, ça permettait déjà aux gens de Corinthe de recevoir des bénédictions. David avait beaucoup de plaisir quand il voyait le peuple d'Israël et d'époque qui donnait. 1 Chroniques, chapitre 29, et le verset 9. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 9. Nous lisons ceci. Quand les gens donnaient pour le temple, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens avaient conscience qu'ils donnaient à Dieu. Ils avaient conscience qu'ils donnaient à Dieu. 1 Chronique, chapitre 29 et le verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Le roi aussi avait une grande joie. Il y avait beaucoup de réjouissance, à plusieurs niveaux. Et Dieu aime quand son peuple donne. Et Dieu aime quand son peuple donne, donc, de bon cœur. Ces principes que nous venons de voir, ces trois choses, ces trois parallèles que nous pouvons constater quand nous donnons à Dieu, nous retrouvons ces principes quand nous faisons des offrandes les jours de fête. C'est logique, parce que c'est la même base. C'est la même base, c'est le fait de donner. Pas d'avoir les yeux sur soi, mais le fait de donner. C'est la voix de Dieu, ce sont ses fêtes, c'est tout à fait logique. Nous trouvons dans Jude, verset 12, nous trouvons les fêtes de l'Éternel qui sont mentionnées sous le nom des agapes. Jude, verset 12. Il parlait à des gens, il parle à propos des gens qui étaient des faux frères. Verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, vos jours de fête, dans vos agapes faisant les fêtes de l'Éternel, dans vos agapes faisant impudemment bonne chair, se répaisant eux-mêmes. Des gens qui prenaient, des gens qui donnaient pas. Ce sont des nouées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Tandis que quelqu'un qui donne avec l'Esprit de Dieu, qui donne de bon cœur, ce n'est pas un arbre qui ne produit pas du fruit, au contraire. Donner fait partie de l'amour. Et quand nous donnons, même sur un plan humain, quand nous donnons un cadeau à quelqu'un, par exemple, nous prenons notre temps, ou on devrait prendre notre temps. Un cadeau qui est donné, un bon cadeau qui est donné à quelqu'un, tient compte des goûts de la personne. Un bon cadeau, c'est quelque chose qui se prépare. On choisit, on se donne de la peine pour faire plaisir à la personne. Et c'est la même chose avec les offrandes, les jours de fête. C'est quelque chose qui se prépare, c'est ce que nous avons déjà vu tout à l'heure. Quelque chose qui se prépare, quelque chose où nous prenons notre temps et on réfléchit à l'avance. Et donc le premier parallèle que nous avons vu et que nous pouvons constater quand il s'agit de donner à Dieu quand nous faisons des offrandes les jours de fête, c'est que l'occasion pour nous en donnant de montrer notre gratitude. De montrer notre gratitude à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Romains chapitre 8, verset 32. Dieu a donné son Fils unique pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Dieu a donné ce qu'il avait bien sûr de plus cher. Et dans Romains chapitre 8, verset 32, nous lisons lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a donné son propre fils, Dieu va bien sûr tout partager avec nous, toutes choses avec lui. Dieu va tout partager avec nous. Et à côté du sacrifice du Christ, et à côté de fait que Dieu vint nous tout donner, c'est peu de choses, ce que nous pouvons donner à Dieu est peu de choses à côté. Même si c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est peu de choses à côté. Revenons à, si vous voulez bien, à 1 Chronique chapitre 29, le chapitre que nous avons vu tout à l'heure, un chronique, chapitre 29, et le verset 14. Un chronique, chapitre 29, verset 14. C'est David qui parlait, qui comprenait cette question de donner, qui comprenait le privilège qu'il avait de pouvoir donner à Dieu. Un chronique, chapitre 29, verset 14. « Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Tu es conscient que tout appartenait à Dieu. Et quelles que soient les choses que nous donnons, à l'origine, ça venait de Dieu. Après tout, comme Paul dit, nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. C'est ce qu'il a dit à Timothée. En Timothée, chapitre 6, verset 7. Dieu va compléter son plan divin. Et Dieu va compléter son plan en ce qui nous concerne, dans nos vies, si nous le laissons faire. Les jours saints démontrent son plan. Et les offrandes que nous donnons lors des jours saints peuvent refléter combien nous apprécions le fait que Dieu travaille dans nos vies. Et que nous pouvons donc montrer notre gratitude pour ce que Dieu fait pour nous. Ça, c'est donc un premier parallèle que nous pouvons constater. Et quelque chose qui nous permet de préparer nos offrandes pour les jours de fête. Quelque chose qui nous aide à préparer nos offrandes pour les jours de fête, de réfléchir et d'être conscient à quel point nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. Le deuxième parallèle que nous avons vu tout à l'heure, c'est le fait de rendre culte à Dieu, de louer Dieu, d'honorer Dieu. Dans Psaume, chapitre 96, Psaume, chapitre 96, nous voyons un psaume où il est question de louange à l'égard de Dieu, de louer Dieu. Psaume 96, on va commencer à lire à partir du verset 1. Psaume 96, verset 1. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Il parle de la grandeur de Dieu. « Car l'Éternel, verset 4, est grand et très digne du louange. » Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Très conscient de la grandeur de Dieu. Et, bien sûr, Dieu a fait pour nous, sur le plan personnel, des choses extraordinaires, et nous devrions aussi louer Dieu et remercier Dieu. Verset 5. Verset 5, verset 6, parle de qui est Dieu, de sa splendeur, verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. C'est vraiment un psaume qui loue Dieu, qui montre la grandeur de Dieu. Verset 7. Et dans ce contexte, regardez le verset 7. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Dans le Choraki, c'est marqué offrez. Offrez. Parce qu'on donne à Dieu quelque chose. Et dans l'anglais, c'est carrément indiqué, c'est carrément traduit par le mot donner. Donner à Dieu. Donner à l'Éternel. Verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Tout le contexte, on vient de le voir, est un contexte de rendre un culte à Dieu. Et dans ce contexte de rendre un culte à Dieu, la Bible parle dans le verset 8 d'apporter des offrandes, parce que ça fait partie de notre culte, le culte que nous pouvons rendre à Dieu et que nous avons l'occasion de faire lors des jours de fête. Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Proverbes chapitre 3 et le verset 9. Bien sûr, on ne donne pas, on n'offre pas à Dieu, on ne donne pas une offrande à Dieu pour, à la place de nos péchés, pour couvrir nos péchés. La Pâque, c'est le sacrifice du Christ, les pains sans levain, c'est le fait que nous laissons le péché derrière nous. Mais quand nous avons établi une relation avec Dieu grâce au sacrifice du Christ, et que nous sortons du péché, et que nous avons établi une relation avec Dieu, nous pouvons honorer Dieu en donnant. Proverbes chapitre 3 et le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça fait partie d'un culte que Dieu veut qu'on lui rende. Ça, c'est donc le deuxième parallèle et qui s'applique aussi pour offrir à Dieu lors des jours de fête. Le troisième parallèle, bien sûr, c'est le fait que Dieu peut bénir. Le fait que Dieu peut bénir. Et donc, Dieu, à travers l'exemple que nous avons vu dans 2 Corinthiens, nous montre comment donner à Dieu. Des choses qui peuvent nous aider quand nous donnons à Dieu. Luc, chapitre 6, verset 37. Parce que quand Dieu parle de l'offrande, de Deutéronome chapitre 16, Dieu parle aussi de bénédiction. Luc, chapitre 6, et le verset 38. Luc, chapitre 6, et le verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on voit ici à quel point Dieu donne. Dieu donne vraiment beaucoup. J'ai voulu vous lire ce verset 38 dans la version Shoaki, parce que ça donne bien le sens. Ça démontre à quel point Dieu donne, à quel point Dieu peut bénir un être humain. Verset 38, donc, dans le Shoraki. Donnez, et il vous sera donné une belle mesure. Quand Dieu donne, il est généreux. Bien tassé, serré, débordante. Donc, il donne et il donne encore davantage. Bien tassé, serré, débordante. Qui sera donné dans votre sein. Ça démontre à quel point Dieu donne. C'est une image qui est bien sûr donnée ici. Mais Dieu est très généreux. Bien sûr, nous ne donnons pas à Dieu pour que Dieu nous donne en retour. Mais Dieu a promis de bénir si on donne avec son cœur. Pas nécessairement avec de l'argent, mais Dieu veut nous bénir. Et si notre attitude est correcte, lors des offrandes, c'est une occasion, quand nous donnons, c'est une occasion où Dieu peut nous bénir. Proverbes chapitre 27 et le verset 23. Proverbes chapitre 27 et le verset 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. À l'époque, les richesses d'une personne étaient mesurées, tout au moins en partie, par ses troupeaux. Et en fonction, bien sûr, de l'état de son troupeau, ça dénotait ou dénotait pas sa richesse. Il devait savoir ce qu'il avait, l'état de ses biens, la valeur de ses richesses. Et nous, c'est bon pour nous de connaître la valeur de ce que nous avons, d'apprécier ce que nous avons, et donc de répondre à Dieu par rapport à ce que nous avons. Et c'est bien sûr ce que nous avons, c'est plus que le matériel. On ne peut pas mesurer la valeur d'une famille, c'est inestimable. Les enfants, le travail, les opportunités que Dieu nous donne, ou nous a données, les privilèges que nous avons aussi. Et donc, pour préparer une offrande correcte, il faut aussi planifier. Planifier en amont, pour ne pas chercher les quelques cents qui nous restent dans notre porte-monnaie au moment venu. Une offrande qui honore Dieu en fonction de ses moyens, c'est très important. Et un budget permet d'atteindre des objectifs précis dans la vie. Et une offrande que nous donnons à Dieu lors des jours de fête est un objectif, une offrande appropriée selon nos moyens. Lorsque, grâce à un budget, on planifie, ça évite du stress. Cela évite du stress que nous pourrons rencontrer à la dernière minute, si nous n'avons pas budgétisé. Et c'est même un encouragement, le fait de donner une offrande à Dieu, c'est même un encouragement à faire un budget pour arriver à ce que nous voulons donner. De budgétiser un certain montant, si nous mettons de côté tous les mois un certain montant, nous savons pour les jours de fête, quand ces jours de fête ont lieu, et donc nous pouvons, en mettant de côté un certain montant chaque mois, prévoir également un certain montant pour les jours de fête. Deutéronome chapitre 16 et le verset 16. Deutéronome chapitre 16 et le verset 16. Nous sommes familiers avec ce passage. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Donc, trois périodes, trois époques au cours de l'année. C'est très riche pour finir le verset 16 parce que c'est marqué « Vous vous présenterons devant l'Éternel ton Dieu, devant l'Éternel. » Ça montre la portée de l'événement. On vient devant Dieu, on rend un culte à Dieu. Et on a vu tout à l'heure que l'offrande va de pair avec le fait de rendre un culte à Dieu. Et puis c'est aussi très personnel. C'est marqué « L'Éternel ton Dieu. » C'est pas uniquement un culte à Dieu, c'est un culte personnel à Dieu, notre culte à Dieu. Et le moindre des choses, c'est que nous puissions préparer à l'avance. À l'époque des mages d'Orient, quand ils sont venus voir le Christ à Bethléem, les mages apportaient des présents. Et les mages suivaient la coutume répandue de présenter des dons, des présents à la royauté ou quelqu'un qui était destiné à devenir un monarque régnant. Et nous, c'est la même chose. Dieu est notre roi. Et Dieu nous dit, Dieu nous précise, pour revenir à Deutéronome chapitre 16, Dieu nous précise, dans le verset 16, chapitre 16 et verset 16, on ne paraîtra point devant l'Éternel, à la fin de verset 16, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On vient au-devant de notre roi, de ne pas venir les mains vides, et donc ça exige une certaine préparation. Verset 17. On peut se poser la question, combien, comment, quand on donne à Dieu, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Dans le rabbinat, c'est marqué selon ses moyens. C'est l'expression qui revient. La Bible fait un ensemble. On a trouvé cette expression dans le Nouveau Testament. Voilà qu'on la trouve aussi dans l'Ancien Testament. Les deux testaments, le Nouveau et l'Ancien, qui se complètent. En fonction, donc, donnera ce qui pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Les riches ne devaient pas donner comme des pauvres. Et les pauvres, bien sûr, ne peuvent pas donner comme des riches. Et le peuple de Dieu, les richesses du peuple de Dieu, les richesses individuelles du peuple de Dieu sont très, très variables. Mais Dieu sait qu'il y a des riches et des pauvres, des gens qui ont plus et des gens qui ont moins. Dieu est juste. Lévitique chapitre 5. Il s'agit ici des sacrifices. Et il y a quelque chose qui est détaillé ici dans Lévitique chapitre 5 qui rejoint ce que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 16. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Dans Lévitique chapitre 5, il est question de sacrifice. Verset 5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. On continue un peu plus loin. Verset 7. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre parce qu'il n'a pas les moyens, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles. Il y a une grande différence de valeur entre une tourterelle et une chèvre, ou une brebis, ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Et puis on va encore plus loin, verset 11. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'épha de fleurs de farine comme offrande d'expiation, il ne mettra point d'huile dessus et n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Et celui qui pouvait donner en offrande un chèvre ou une brebis devait le faire. Celui qui ne pouvait pas, il y avait d'autres possibilités. Et c'est ce que Dieu a prévu. Pour revenir à Deutéronome chapitre 16, verset 16, c'est marqué verset 17, pardon, c'est marqué aussi selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Et donc, de regarder ces bénédictions, de compter, pour ainsi dire, ces bénédictions, et répondre en fonction de ces bénédictions que Dieu nous a données. On répond à ces bénédictions. On regarde ces bénédictions avec appréciation. Le cœur tourné vers Dieu, pas un cœur retréci, mais un cœur tourné, un cœur reconnaissant tourné vers Dieu. Et tout le temps, lorsque nous préparons nos offrandes, on peut bien sûr faire un budget, c'est ce qui nous aide beaucoup, mais tout en laissant la porte ouverte. À ce point de vue-là, d'être flexible. Parce que notre situation au cours de l'année, ben nous avons prévu quelque chose, nous avons prévu mettre de côté un certain montant tous les mois, mais notre situation peut s'améliorer au cours de l'année. Et si notre situation s'améliore, nous pouvons réfléchir à cette bénédiction supplémentaire et plus importante, et donc de répondre aussi en fonction de cette bénédiction supplémentaire. Parce que les bénédictions, ce n'est pas uniquement physique. La bénédiction, c'est aussi ce que Dieu a fait dans notre vie, par exemple. Le fait qu'il nous a aidés à traverser un certain nombre de choses, qu'il a plané les sentiers devant nous, qu'il est intervenu dans nos vies, qu'il nous a secourus. La liste est très longue. Qu'il nous a protégés, qu'il nous a donné, par exemple, du travail, qu'il nous a donné des enfants ou un enfant, etc., etc. Et notre perception, donc, est très importante. Et nous aurons, à ce moment-là, en voyant ces bénédictions, nous aurons davantage à cœur le fait de donner. Nos offrandes sont importantes aux yeux de Dieu. Et quand nous préparons nos offrandes, cela nous permet de montrer notre gratitude, de rendre un culte à Dieu, d'honorer Dieu, et c'est aussi une opportunité pour Dieu de nous bénir en fonction de notre attitude. Et c'est bon pour nous de garder ces principes en tête quand nous préparons nos offrandes.